Papouanie. Cette semaine, Alban Penaranda rencontre Ariane Ascaride. Ce soir, femme, mère, comédienne.
Ariane Ascaride, dans La Villa, le 20e film de Robert Guédiguian, vous incarnez une comédienne qui, après de longues années d'absence, revient au chevet de son père malade dans la maison familiale près de Marseille, dans la calanque de Méjean. Entre elle et ce père, il y a un drame qui les a séparés. Elle retrouve là ses deux frères, des souvenirs d'enfance et une seconde jeunesse. Cette comédienne, qui dit du Claudel, vous ressemble-t-elle ou lui ressemblez-vous ?
Je lui ressemble un peu parce que j'ai deux frères. Je lui ressemble un peu parce que mon père a été très malade et que effectivement on s'est occupé de lui. Je lui ressemble pas parce que j'ai jamais joué de Claudel. Enfin, ce qu'elle dit d'ailleurs, elle dit qu'elle n'a jamais joué de Claudel. Elle dit exactement comme s'il fallait qu'on mesure 1m80 et qu'on soit blonde pour jouer du Claudel. Et je pense que effectivement, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est que Claudel, c'est Antoine Vitesse m'avait poussé à faire ça et que ça avait été un moment dans ma vie. C'est un truc dont j'ai souvent parlé de ça. Mais c'est vrai que on ne me proposera jamais de jouer du Claudel. En France, c'est impossible. On peut pas m'imaginer dans du Claudel. C'est comme ça. Elle ressemble à la Lioubov que j'aurais dans La Cerisée, que j'aurais adoré jouer. Voilà. Je dirais, si j'avais joué Lioubov, peut-être qu'elle aurait ressemblé à ça. Après, bon, je n'ai pas été traversée par le drame qu'elle a vécu, bien sûr, et heureusement. Oui, il y a des choses, c'est-à-dire ce rapport compliqué avec des frères, c'est toujours compliqué. Enfin, en tout cas, avec mes frères, c'est toujours un peu compliqué. L'amour est là, il y a aucun doute, c'est même pas la peine d'en parler. Mais les rapports avec deux frères, quand on est une fille, c'est un peu des fois un peu embêtant quand on est une fille du sud avec des frères qui sont du sud, avec un père qui était terriblement du sud. Voilà. C'est-à-dire que ce rapport qui est d'avoir toujours un truc par rapport à cette sœur qui a plus ou moins réussi et qui a fait des choses qu'ils n'ont pas fait et que c'est la dernière et que c'est voilà. Bon, voilà, je veux pas raconter ma vie parce que c'est inintéressant, mais même dans le film quoi, c'est comme ça, mais j'étais très heureuse de jouer effectivement une sœur et deux frères. Ce sont des hommes qu'on aime complètement. Mais on n'est pas du tout dans le rapport amoureux. Et donc, ça fait un rapport qui est très à part. Parce que la plupart du temps, avec les hommes, on est dans des rapports de séduction ou de pouvoir, suivant où on travaille, ou de pouvoir et de séduction, d'ailleurs. Mais un frère, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est un homme, pas pareil que nous, mais c'est celui, c'est le témoin de votre enfance, c'est celui qui sait comment vous étiez quand vous étiez petite, c'est celui avec lequel vous vous êtes disputé, que vous êtes frappé, qui vous a tiré les cheveux, ou à qui que vous êtes allé rapporter à vos parents qu'il avait fait un truc débile, et ça change tout, quoi. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça.
Vous avez donc travaillé Claudel, fortement encouragé par Antoine Vitesse, votre professeur, mais vous ne l'avez jamais joué. Mmh. Doit-on pouvoir tout jouer, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, que l'on soit accordé ou pas à un texte, à son auteur ? Quelles sont vos limites à vous ? Qu'est-ce qui vous fait dire « ça je peux, ça je veux et ça je ne peux pas » ?
Ah, c'est une très bonne question, ça, vraiment. Non, je ne jouerai pas tout, parce que je n'ai pas envie. Parce qu'il y a des textes que j'ai pas envie de supporter, dans le sens de supporter, hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de mettre ma voix sur certains textes. C'est vrai que j'ai quand même un peu tendance à jouer des choses qui me semblent, à moi, importantes de faire entendre aux autres. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il y a des auteurs, voilà, par exemple, j'ai jamais joué Tchekhov. Professionnellement, j'aurais rêvé de jouer Tchekhov. Peut-être un jour je ferai une des vieilles de Tchekhov, j'en sais rien, mais j'ai jamais joué Claudel, qui est quand même un grand auteur. C'est moi qui sera pour la Claudel. Mais non, je ne jouerai jamais quelque chose de mal écrit. Ce qui pour moi est mal écrit. C'est-à-dire, des espèces de machines, j'appelle ça des machines à, ou des machines à faire rire ou des machines à rebondissement. Alors, par exemple, il y a des machines extraordinaires, Fedot, La Biche, ça c'est génial, c'est jubilatoire pour un acteur de jouer ça. Mais je ne jouerai jamais des choses où on rabaisse le niveau, quoi, vous voyez. Où je sens, il y a un endroit où il y a de la vulgarité. Ça veut pas dire de la vulgarité dans les mots, mais une espèce de vulgarité de pensée qui ça me dérange profondément. Non, je le ferai pas. Non, si vous voulez, je l'ai jamais fait. Même quand je n'avais pas du tout d'argent, même quand j'avais rien, par exemple, je n'ai jamais fait de publicité. Et je n'en ferai jamais. Et pourtant, un jour, on m'a proposé un truc, mais non. Parce que mon métier, c'est pas celui-là. Je suis pas là pour vendre un savon ou une voiture. Non, c'est pas ça. Moi, mon métier, c'est de raconter des histoires aux gens. Donc, c'est vraiment un truc, en plus, qui me dérange quand je vois des acteurs connus en train de faire de la publicité. D'abord, ils devraient pas le faire parce que ça donnerait du boulot à des acteurs moins connus et qui ont besoin d'argent et qui sont d'accord pour en faire. Ça leur donnerait du travail. Et quand on est déjà blindé, de chez blindé, et qu'on fait la pub pour une voiture, pour une montre, si vous voulez, j'ai pas la case, ça rentre pas dans ma tête. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Alors peut-être parce qu'on a besoin de payer la piscine, ou j'en sais rien, ou les impôts, je m'en fous. Mais de toute façon, mon métier, c'est pas celui-là. Comment voulez-vous que le public, quand il vous a vu pendant des mois défendre une voiture, ou comment voulez-vous après, quand il vous voit jouer? Il dit, ah, c'est le mec ou la fille de je ne citerai aucune marque. Mais c'est dans sa tête. Et du coup, le personnage que vous jouez, il est teinté du cycle McDonald's ou je ne sais pas quoi, vous voyez, alors que vous allez jouer un truc où vous êtes peut-être absolument formidable d'ailleurs. Mais il faut que la crédibilité du personnage soit totale.
Mais par contre, incarner un personnage très loin de vos convictions, ça ne vous pose pas de problème?
Ah non, ça me plairait bien même. Ça me plairait beaucoup. Ça me plaît. Je rêve de jouer, mais une fasciste épouvantable, méchante, horrible. Mais j'ai toujours dit aussi que je rêvais de jouer, quand je serais vieille, très vieille, une vieille aristocrate. Vraiment. Ça, alors là, c'est un de mes rêves.
Comme celle des films de Visconti.
Voilà, exactement. Vous avez bien compris.
Comment abordez-vous vos rôles? Comment les travaillez-vous? Avez-vous besoin de les analyser, de tout en savoir, de tout en comprendre?
Alors, ça dépend. Ça dépend si c'est du théâtre, ça dépend si c'est du cinéma. Si c'est du théâtre, je suis ce qu'on appelle une besogneuse, quoi. Je travaille, je lis, je relis. Et puis, Antoine Vitez avait dit, de toute façon, faut que vous lisiez tous les jours, parce que tout est dans le texte. Il suffit de lire et vous allez tout trouver. Quand il me disait ça, quand j'avais 20 ans, je me disais, il est gonflé, parce que moi, je lis, je vois pas, quoi. Et en fait, il a raison. Les points, les virgules, et relire des phrases, parce que elles vont, au fur et à mesure que ça mature, ça va prendre un écho différent, et puis au fur et à mesure que vous trouvez votre personnage, au fur et à mesure que, il faut lire et relire, parce que c'est comme ça que vous allez avoir le parcours de votre personnage. Alors, je fais ça, chez moi, et en répétition, je suis quelqu'un d'assez, direct. Je me lance très vite. Dans les répétitions, j'aime ça, j'aime répéter, même si c'est ardu, même si des fois c'est pas rigolo, même si des fois je suis complètement perdue, je sors de là. Par exemple, j'ai joué à un spectacle qui s'appelle Le silence de Molière, qui était un spectacle sur la fille de Molière.
Mis en scène par Marc Paquin.
Mis en scène par le magnifique et vraiment très talentueux Marc Paquin. On se connaissait pas, quand Marc m'a envoyé ce texte, je l'ai lu, j'ai dit mais c'est pour moi. C'est obligatoirement pour moi, puisque c'est ce père qui fait du théâtre, et voilà, et cette fille qui a ce rapport haine et amour tout le temps avec tout ça. Il y avait un truc où effectivement je me reconnaissais, enfin voilà, même si j'ai jamais haï véritablement mon père, et que je ne suis pas restée dans l'ombre. Et quand j'ai commencé à répéter, c'est ça qui est... C'est parce que je parle de ce spectacle, parce que ce spectacle a été un moment de mon travail, c'est-à-dire que je voulais le faire et je freinais des cas de fer. Mais presque inconsciemment. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment remercier Marc Paquin, parce que il a eu l'honnêteté de me dire à un moment donné, mais ça va pas. On va peut-être arrêter parce que tu n'y arrives pas. Ce qui m'a, un, profondément vexée, deux, totalement paniquée, j'ai pas dormi toute une nuit. Et puis le lendemain, je suis arrivée à la répétition et je me suis dit, bon, il m'a dit, on répète encore un jour, on va voir. Et voilà. Et là, j'ai lâché, quoi. Et c'est un spectacle qui, dans ma vie professionnelle, est un spectacle très important.
Quand vous parlez de votre travail de comédienne, vous dites ce qui est important, c'est l'évidence. Mmh. Et pour y arriver, il faut être courageux. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ce courage, Ariane Ascaride?
Ben, c'est le courage d'accepter de ne pas se servir simplement de sa virtuosité. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, il faut se découvrir, il faut enlever l'armure que tout le monde a dans la journée. Quand vous montez sur un plateau, faut l'enlever, faut y aller, faut montrer, il faut travailler comme un malade pour que le travail ne se voit plus. C'est ça l'évidence. Vous ne pouvez arriver à l'évidence que par le travail, que parce qu'à un moment donné, vous allez être traversé par le personnage, et on n'est pas traversé par le personnage parce qu'on a simplement du talent, ou d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est, et on est traversé par le personnage parce que on va aller le chercher. C'est Peter Brook qui disait ça, hein, les répétitions, c'est comme une exploration, et quand on fait les spectacles, eh ben c'est le retour de l'exploration, on vous la raconte. Ben ouais, et il faut que les gens ne voient pas que j'ai travaillé. Il faut que ça semble tellement naturel. Je n'aime pas. Il y a des gens qui ont des systèmes de jeu, des choses comme ça, et on les reconnaît. Je n'aime pas ça. Moi, je veux qu'on se dise voilà, c'est comme ça, quoi.
Un rôle est-ce toujours un défi, ou aimez-vous qu'un rôle soit un défi?
Ce n'est qu'un défi. Si vous jouez des Phèdres et des Andromaques, il y en a eu des camions entiers, hein, ou des Martines, des Toinettes, des camions. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit la vôtre. Et c'est ça le truc. Parce que le texte, c'est toujours le même. Mais il faut qu'à un moment donné, vous fassiez alliance entre le texte et entre ce que la vie a fait de vous, comment elle vous a traversé, et comment vous allez trouver à l'intérieur de votre vécu ce qui va vous aider à vous mettre au service du texte. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut jamais oublier. Il faut être au service. Le texte n'est pas quelque chose pour nous. C'est nous qui sommes à son service.
Pouvez-vous travailler avec des gens qui ne sont pas vos amis ou des gens qui ne pourraient pas le devenir? Travailler dans la distance, voire la tension, l'affrontement?
Alors c'est vrai que je dis très souvent, quand je travaille avec les gens, je ne travaille pas dans le conflit. Ça m'ennuie. C'est facile de travailler dans le conflit, vous voyez. C'est un truc... S'il y a conflit sur certains spectacles dans lesquels je suis, moi, je m'éloigne.
Mais pourtant, la dispute, l'affrontement, la bagarre, ça peut être productif, enrichissant, non?
Non, j'y crois pas, c'est du bipo, ça. Et la dispute, l'affrontement, la plupart du temps, dans mon métier, c'est des affrontements d'égo. Et puis, parce qu'au fond, très souvent, c'est ça. Vous savez, c'est compliqué, le rapport metteur en scène-acteur. Hein, c'est vrai que un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui arrive à voir, à décrypter assez vite qui est qui, comment il fait le choix de ses acteurs et tout ça, et qui sait que par moment il va falloir ramer, quoi. Mais un bon metteur en scène, il sait faire ça extrêmement bien, parce que souvent un acteur qui s'énerve, un acteur qui c'est parce qu'il panique, parce qu'il a peur, parce que c'est dangereux. Vous voyez? Mais le problème, c'est que si c'est un problème dramaturgique, véritablement dramaturgique, on n'est pas obligé de crier, on parle, et puis on peut se dire à ce moment-là, non, je ne suis pas d'accord avec ta proposition dramaturgique. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution que de s'en aller, parce que c'est une souffrance épouvantable pour un acteur d'aller tous les soirs jouer un spectacle qu'il n'aime pas du tout. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. C'est épouvantable de jouer un truc qu'on n'aime pas. Épouvantable! Et la vie est pas assez longue pour se faire des supplices, se planter des couteaux. Vous voyez, moi je suis pas Saint-Sébastien quand même. Mais souvent, en fait, dans ces disputes, dans ces accrochages, c'est des histoires d'ego plus qu'autre chose. Et moi, l'ego, je m'en fous.
Ariane Ascaride, vous avouez, plus j'avance dans mon métier, plus j'avance en âge, moins je comprends. Je ne sais plus comment on fait. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se traduit?
C'est vrai. C'est parce que quand vous commencez, vous avez d'abord, si vous avez fait comme moi le conservatoire, on vous a appris certaines techniques qui sont indispensables, des choses comme ça. Et puis, vous êtes, comme je disais, je ne sais plus dans quelle émission, j'étais un peu volontariste, il fallait que mes personnages, ils envoient telle couleur, ou voilà, je dessinais peut-être à traits un peu plus épais les caractères de mes personnages. Aujourd'hui, je laisse aller. Mais pour laisser aller, il faut avoir vieilli.
C'est le fruit de l'expérience.
Mais il faut avoir travaillé. Il faut laisser aller tout en ayant toujours un œil sur la ligne blanche, tu vois, comme en voiture, quoi. Il faut laisser aller, mais en sachant que, hop, moi, mon plaisir, si vous voulez, c'est que j'aime beaucoup les mises en scène qui sont très cadrées, où on a presque ce que j'appelle des canevas, quoi. La mise en scène est comme un canevas. Et moi, ce qui me plaît, c'est dans les cases qu'il y a, c'est d'inventer à l'intérieur des cases. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est jubilatoire. Donc ça, il faut toujours faire attention parce que il faut inventer, en tout cas en ce qui me concerne, il faut que j'invente, mais en gardant la rigueur. Je suis quelqu'un d'assez rigoureuse dans mon travail.
C'est votre côté protestant?
Oui, absolument.
Oui, oui. Vous dites aussi prêter de plus en plus d'importance au son, à la musique de la voix, des mots.
C'est vrai. Plus je vais dans mon travail, plus je travaille d'une manière musicale. Par exemple, ce que je fais en ce moment avec Didier Bezaz sur Aragon et Elsa Triolet, comme on fait ça avec des micros, ça me permet d'essayer des tas de choses et c'est vraiment musical, quoi. Mais vraiment musical, c'est-à-dire que il y a une respiration, il faut vraiment qu'elle soit là parce que c'est comme une partition, quoi. Parce que sinon, si elle est pas là, ça va pas, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la radio. Beaucoup, beaucoup, parce que la radio, ça vous permet de... Vous faites tout avec la voix, quoi. Rien que la voix. Et aussi, la voix, c'est votre âme. Donc, il faut être courageux.
Être une femme, une mère qui travaille, ce n'est facile pour aucune d'entre nous. Être comédienne et mère, est-ce que cela a été parfois difficile pour vous, Ariane Ascaride?
Bien sûr, évidemment. Il y a eu des moments où j'ai culpabilisé. Ma seconde fille avait le don, me l'avouait beaucoup plus tard, quand je partais le soir pour jouer au théâtre. Quand elle était petite, elle m'accompagnait à la porte, mais en pleurant, c'était des sanglots. Ça me fendait le cœur, il fallait que je parte, il fallait que j'aille jouer. Et après, elle m'a avoué, une fois que la porte était fermée, maman, ça allait très bien. Mais moi, pendant tout mon voyage dans le métro pour aller jusqu'au théâtre, j'en étais malade. C'est vrai que j'ai toujours essayé d'être... très présente, et même quand je partais en tournée, de trouver toujours des moyens pour qu'elle vienne me rejoindre dans des week-ends ou dans des vacances. Quand nous avons fait des films avec Robert pendant longtemps, nous n'avons fait des films qu'en été, parce que c'était les vacances et qu'elle pouvait venir avec nous. Et j'ai toujours privilégié effectivement ma vie de famille. Je suis pas du tout mondaine. Et dans cette maison, bien sûr qu'on parle d'art, bien sûr qu'on parle de théâtre et de cinéma. Mais on ne parle pas de la représentation de ce travail-là. On peut parler d'auteur, de choses comme ça. Mais sinon, mes filles ont un rapport très simple à tout ça. Simplement, quand Jean-Pierre Darroussin était à la maison, ma fille aînée s'amusait à appeler une copine en lui disant « Tu peux passer, me porter un truc et tout ça ?» Et bon, elle se fendait la gueule parce que la gamine, elle arrivait puis qu'elle voyait Jean-Pierre dans la cuisine. Donc voilà, ça la faisait rire parce qu'elle voyait bien ce que ça provoquait chez l'autre. Et d'ailleurs, elles ont pas du tout de rapport, de groupie à personne. Absolument personne. Il y a des gens qu'elles admirent beaucoup, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il n'y a pas ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. De toute façon, je pense que c'est jamais simple pour quelque femme que ce soit que de travailler, que d'avoir des enfants, que de s'occuper de sa maison. C'est comment on est la déesse indienne là,
Shiva,
on est des Shiva, faut le dire une fois pour toutes, enfin c'est clair.
Comédienne donc exposée, votre couple est aussi un duo de cinéma, un cinéma dans lequel les personnages, la famille, les amis, la réalité et la fiction peuvent sembler se confondre. Où est pour vous la frontière entre le privé et le public, entre la vie réelle et la représentation? Où placez-vous les limites?
Quand on fait un film avec Robert, c'est difficile les limites, là, vous voyez. Enfin, il y a une limite qui est que quand on est sur le plateau, on est sur le plateau et on travaille. L'exigence est extrêmement grande. On se tape pas sur l'épaule, ni sur le ventre quand on est en train de tourner avec Robert. Ça travaille vraiment, que ce soit l'équipe technique, que ce soit les comédiens. Effectivement, ça va peut-être plus vite que sur d'autres plateau, parce qu'il suffit de se regarder. Voilà, moi, avec le chef opérateur, avec Pierre Milon, il suffit que je le regarde à la fin d'une prise, je jette un œil comme ça, où il me dit, voilà, de son air impassible, j'arrive à lire dans son air impassible que ça va ou que ça va pas. Avec le son, Laurent Lafrant, c'est pareil, c'est génial. Et nous, en tant qu'acteurs, on a cette liberté-là qui est effectivement qu'on n'est pas obligé de se prouver qu'on est des bons acteurs, qu'on peut jouer ensemble. Non, ça, c'est la question qui ne se pose pas. Donc, du coup, on gagne beaucoup de temps. Après, moi, souvent, quand on tourne, souvent le soir, moi, je rentre. Et en fait, je reste seule. J'ai besoin En fait, je suis quand même un peu pétrie de solitude qui vient de très loin. J'ai toujours besoin de retrouver un peu une certaine solitude. Voilà.
Touchée par les faits, c'était un spectacle dans lequel vous étiez seule sur scène et vous disiez « Je suis tellement contente d'être là, toute seule, sans mon père, sans mon mari, sans mon frère. » Au-delà de la boutade, que vouliez-vous dire? Votre besoin, votre désir d'échapper à la présence, au poids des hommes de votre vie, si l'on peut dire, sur votre existence de comédienne, Ariane Ascaride?
Yes sir, oui, c'est un peu ça, oui, oui. Parce qu'ils sont quand même un peu envahissants, hein. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Ils sont tous formidables, mais des fois ils sont un peu pesants, quoi. Et des fois il faut que je joue un peu des points pour respirer. Voilà, je dirais ça comme ça, et c'est vrai que j'avais trouvé ça absolument formidable, parce que c'est Marie qui a écrit ça, et quand elle est arrivée, qu'elle m'a donné ça, je lui ai dit, mais c'est génial, quoi. Et c'est ça qui, pour moi, était absolument formidable de travailler avec Marie Desplechin, c'est que Marie Desplechin, elle lit dans ma tête. J'ai pas obligatoirement besoin de dire les choses. À partir des histoires que je racontais, Marie Desplechin, elle lisait dans les silences. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée avec ce texte-là, et c'est vrai que moi, je suis très résistante. C'est terrible. C'est épouvantable comme je suis résistante. Je peux tenir longtemps, longtemps, longtemps. Je sais pas pourquoi. Du coup, tout le monde a pris un peu l'habitude de s'appuyer sur moi. Et en s'appuyant, ils m'étouffent un peu, vous voyez, ils me mettent la main sur la figure. Voilà. Donc,
Dans votre métier de comédienne, vivez-vous la voix, la parole des hommes comme un instrument de domination, parfois ou trop souvent ou
c'est pas dans du mon tout. Métier de comédienne, c'est dans la vie tout court. Tout simplement. C'est dans la vie tout court. Après, les pauvres, c'est pas complètement de leur faute, hein. Et ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que, bon, je n'ai pas de garçon, mais il faut bien que nous, les femmes, nous réfléchissions comment on élève nos garçons, comment on fait, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur demande. Parce que c'est aussi, ils ont une pression épouvantable, quoi. Il faut, un garçon, ça pleure pas, un garçon, ça doit avoir une carrière, un garçon, ça doit soutenir et tout ça. Bah, les pauvres, en fait, ils sont beaucoup moins forts que nous. Au bout d'un moment, bah, ils nous écrasent un peu la tête, hein, parce que sinon, ils vont pas y arriver. Et Simon Abkarian, il dit une chose que j'aime beaucoup, parce que Simon, il a un côté très féminin. Il dit, si un homme ne pleure pas, il ne peut pas apprendre. Et je trouve ça formidable. Et c'est vrai que ça fait très longtemps. Alors, on est dans un mouvement qui s'est initié il y a quand même pas mal d'années, parce que c'est pas depuis 2-3 ans, hein. C'est depuis les années 70. C'est parti en 70, c'est parti un peu comme un feu d'artifice et un peu dans tous les sens. Mais quand même, il y a quand même un mouvement qui se fait, mais ça va être long. Et vraiment, moi, je ne considère pas du tout les hommes comme mes ennemis, hein. J'adore les hommes, je les trouve très émouvants. C'est ça qu'ils ont oublié, ils n'arrivent pas à assumer leurs émotions. Je les déteste pas, mais après quand ils arrivent, qu'ils roulent des mécaniques et qu'ils vont m'expliquer comment est le monde, ce que je dois faire, et que, ah bah oui, ah bah vous savez pas démonter une roue, ah bah bien sûr, vous êtes une femme. Là, j'ai juste envie de lui mettre mon poing dans la gueule, parce que c'est pas ça le plus important.
Vous diriez-vous féministe ?
Oui, oui. Oui, oui, je le dirais, tranquillement, sans être obligée d'aller, par exemple, quand il y a des manifestations sur les violences sexuelles, et ça, oui, j'y suis, parce que quand même, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son mari, ou de son amant, et dans d'autres pays, l'Arménie, c'est épouvantable aussi, la situation des femmes. Oui, je suis féministe, oui, parce que ça va, ça suffit, on ne tue pas. Une femme, un homme ne roue pas de coups une femme, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Ce n'est pas un homme, c'est une bête, c'est un pauvre type, c'est une merde.
En réalisant Ceux qui aiment la France, le film que vous avez fait pour la télévision, vous étiez cette fois seul maître à bord, après Dieu, comme on dit. Comment avez-vous vécu cette première expérience derrière la caméra ?
Oh ben non, je me suis dit qu'être comédienne, c'était vachement reposant. Là, j'ai mesuré à quel point, vous savez, un réalisateur, Robert, il dit ça tout le temps, et c'est vrai, un réalisateur ou une réalisatrice, c'est quelqu'un qui passe toute sa journée à dire oui, non. Oui, non, parce qu'il y a des tas de gens qui proposent, il y a des tas de gens qui proposent des choses, des acteurs qui proposent une certaine manière de jouer la séquence, un chef opérateur qui propose une lumière, un décorateur qui propose un décor. C'est oui, non, tout le temps. Et tout le monde est à votre service. Alors ça, c'était assez compliqué pour moi, parce que j'ai pas tellement l'habitude de ça. J'ai pas envie d'être un leader. J'ai jamais eu envie. J'ai pas de besoin de pouvoir. C'est un truc que je m'en fous. Et là, d'un coup, oui, voilà, vous êtes maître à bord après Dieu, et bah, il a fallu l'assumer. Donc, je crois que je l'ai assumé avec pas mal d'humour. Et puis, c'était formidable en même temps de faire ça. J'ai travaillé avec une scénariste qui s'appelle Baya Kasmi, qui est une fille formidable, qui est vraiment quelqu'un qui écrit très bien. Et puis, c'était un film avec des enfants, entre autres. Et j'adore travailler avec les enfants. Et ils étaient tellement épatants, mais vraiment tellement épatants, qu'on a pu faire des choses. Et puis, d'un coup, de réaliser, ça, c'était génial, parce que j'avais dit à mon chef opérateur, voilà, moi, je pars... sur des couleurs primaires. Je veux que tout soit en couleurs primaires, comme les Martines, Martine à la plage, Martine, voilà, tout ça. Et il a vachement bien compris. Et d'un coup, de pouvoir réaliser des images qu'on a dans sa tête. Ça, c'est épatant. Ça, c'est vraiment épatant.
Ariane Ascaride, quelles sont les comédiennes que vous avez admirées, qui ont été pour vous des modèles et qui restent des références?
Anna Magnani, Simone Signoret, Maria Cazares... Attendez, parce que Denise Jeans, que j'adorais, vraiment, c'est une actrice qui me bouleversait. Bon, après, il y a les Américaines, hein, bien sûr, Shirley MacLaine. Oh, il y en a, c'est Jane Fonda, j'aime beaucoup Jane Fonda. J'aime beaucoup comment elle travaille. Et Bette Davis, bon, je peux regarder en boucle Bette Davis. C'est d'une intelligence insensée. C'est Arletty, parce que Arletty, elle est l'incarnation même d'une parole. C'est une ambiance à elle toute seule. C'est presque atmosphère. C'est pas qu'un gag, quoi, parce qu'elle est, elle emmène une ambiance, quoi. Mais il y en a plein que j'oublie, certainement. Il y en a plein que j'oublie. Mais en fait, des femmes qui ont effectivement une force d'actrice, quoi, qui sont pas simplement des très belles femmes et qui vont exécuter ce qu'on leur demande. Non, c'est des femmes proposantes. C'est vraiment des femmes proposantes, quoi. Et Valentina Cortese, que les gens connaissent moins maintenant, que j'avais vu avec Strehler, où elle jouait Lyubov, d'ailleurs, dans La Cerisée, où elle était démoniaque, quoi. Voilà, je dirais celle-là, mais il y en a plein d'autres.
Qu'est-ce que c'est, au fond, pour vous, être comédienne, Ariane Ascaride?
C'est difficile, ça. C'est raconter des histoires aux gens en ayant la sensation précise, enfin, le devoir, la responsabilité de permettre aux gens de pleurer, de rire, de réfléchir sur le monde dans lequel ils vivent, de leur donner le temps d'un spectacle, un espace où ils peuvent se retrouver aussi en tant qu'êtres humains. Et peut-être que les choses les renvoient à eux-mêmes. Et c'est les aider à vivre.
Merci Ariane Ascaride. À demain.
À demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Ariane Ascaride. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Cyprien Creton, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.